Chapitre 40, la nature et l'influence des témoignages. À mesure que la fin approche et que s'étend la proclamation du dernier avertissement au monde, il devient plus important que ceux qui acceptent la vérité possédant une claire intelligence de la nature et de l'influence des témoignages que, dans sa providence, Dieu a lié au message du troisième ange dès son origine. Les pages qui suivent contiennent des extraits de ce que j'ai écrit au cours des 40 dernières années, sur mes premières expériences dans cette ouvre spéciale et sur ce que Dieu m'a montré au sujet de la nature et de l'importance des témoignages, comment ils sont donnés et comment ils devraient être considérés. C'est peu de temps après les événements de 1844 que j'ai reçu ma première vision. J'étais en visite chez une chère sœur en Christ pour laquelle j'éprouvais la plus vive affection et qui me le payait de retour. Cinq d'entre nous, toutes des femmes, étions agenouillés pour le culte de famille. Pendant que nous étions en prière, la puissance de Dieu descendit sur moi comme jamais encore cela ne s'était produit. Je me sentais entouré de lumière et je m'élevais toujours plus haut au-dessus de la terre. À ce moment je vis le peuple adventiste, le retour du Christ et la récompense des fidèles. Dans une seconde vision, qui suivit de près la première, je vis les épreuves qui m'attendaient, et je compris qu'il était de mon devoir de faire connaître autour de moi ce que Dieu m'avait révélé. Il me fut montré que mes travaux rencontreraient la plus grande opposition, que mon cours serait déchiré par l'angoisse, mais que la grâce de Dieu me soutiendrait jusqu'au bout. Cette vision me troubla profondément, car elle m'imposait le devoir d'aller annoncer la vérité en public. Une grande crainte m'étreignait. Si je répondais à l'appel du devoir, me déclarant favorisé du Tout-Puissant par des visions et par des révélations pour le peuple de Dieu, n'allais-je pas céder à une exaltation coupable, m'élever au-dessus de l'état où je devais me tenir, et attirer ainsi sur moi le déplaisir de Dieu et perdre mon âme? J'avais à l'esprit plusieurs cas de ce genre et mon cours tremblait devant l'épreuve. Je demandais instamment au Seigneur que si je devais aller raconter ce qu'il m'avait montré, je sois préservé de toute exaltation déplacée. L'ange me dit, « Tes prières sont entendues, et elles seront exaucées. Si le mal que tu redoutes te menace, la main de Dieu sera étendue pour te sauver. Par le moyen de l'affliction, le Seigneur t'attirera à lui, et il préservera ton humilité. Annonce fidèlement le message, persévérez jusqu'à la fin et tu mangeras du fruit de l'arbre de vie, et tu te désaltéreras à la source des eaux vives. » À cette époque, le fanatisme s'était glissé parmi les croyants du premier message. De graves erreurs de doctrine et de conduite étaient enseignées, et certains étaient prêts à condamner tous ceux qui ne voulaient pas accepter leur manière de voir. Dans une vision, Dieu me montra ses erreurs et il m'envoya vers ses enfants égarés pour le leur dire. Mais je rencontrais dans l'accomplissement de ce devoir une vive opposition. Quelle dure épreuve pour moi que de dire à ceux qui étaient dans l'erreur ce que Dieu m'avait montré à leur sujet. J'étais dans une grande détresse en voyant les âmes troublées et affligées. Et lorsque je me voyais contrainte de délivrer des messages, je les adoucissais souvent, les présentant d'une manière aussi favorable que possible à ceux auxquels ils étaient destinés. Puis je me retirais à l'écart pour pleurer, l'esprit en détresse. J'enviais ceux qui n'avaient d'autre charge que celle de leur âme, et je pensais que si j'étais à leur place, je ne me plaindrais pas. Il m'était dur de répéter les témoignages tranchants que le Seigneur me donnait. Anxieusement, j'attendais le résultat et si les personnes réprouvées se rebellaient contre la réprimande pour s'opposer ensuite à la vérité, ces questions s'élevaient dans mon esprit, ai-je présenté le message comme j'aurais dû le faire? N'y aurait-il pas eu un moyen de sauver ces âmes? J'étais en proie à une telle détresse que souvent la mort m'aurait paru une messagerie de bonnes nouvelles et la tombe un doux lieu de repos. Je ne mesurais pas le danger et le péché d'une telle attitude jusqu'à ce que, dans une vision, j'aie été transporté en la présence de Jésus. Le Sauveur me regarda sévèrement, puis il détourna de moi sa face. Il est impossible de décrire la terreur et l'angoisse que je ressentis. Je tombai la face contre terre en la présence du Seigneur, mais je n'éprouvai pas la force d'articuler une parole. Oh! Combien je souhaitais ne plus voir ce regard terrible. C'est alors que dans une certaine mesure je pus me représenter la terreur des méchants lorsqu'ils crieront aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau. Puis un ange m'invita à me relever et ce que mon regard rencontra peut à peine être décrit. Je me trouvais en présence d'un groupe de personnes hirsutes, aux vêtements en lambeaux et dont l'expression était l'image exacte du désespoir et de l'horreur. Elles s'approcheront de moi, et frottèrent leurs vêtements aux miens. Et tandis que j'examinais ceux-ci, je vis qu'ils étaient tachés de sang. Une fois encore je tombai comme morte aux pieds de l'ange qui m'accompagnait. Je n'avais pas la moindre excuse à faire valoir et je désirais ardemment quitter ce saint lieu. L'ange me releva et me dit, « Tel n'est pas encore ton cas, mais cette scène t'a été montrée pour que tu saches quelle sera ta situation si tu négliges de déclarer aux autres ce que Dieu t'a révélé. » Cet avertissement solennel présent à l'esprit, j'allais faire connaître aux personnes intéressées les paroles de censure et d'instruction que le Seigneur me confiait. Témoignage personnel. J'ai souvent envoyé par écrit des messages destinés à différentes personnes, ceci sur la demande expresse de beaucoup d'entre elles. À mesure que mon travail augmentait, cela devenait une partie importante et fatigante de mes occupations. Avant la publication du témoignage 15-1868, de nombreuses requêtes pour avoir des témoignages écrits me furent adressées par ceux que j'avais conseillés ou repris. Mais j'étais dans un état de grand épuisement, état provenant d'un labeur écrasant, et je reculais devant cette tâche d'autant plus que beaucoup de ces personnes étaient indignes, et qu'il y avait peu d'espoir pour que les avertissements donnés opèrent un changement sensible en elles. Je fus alors grandement encouragée par ce songe. Une personne m'apporta une pièce de tissu blanc en me priant d'y tailler des vêtements pour des gens de toute grandeur, de tout caractère, et de toute condition. Je reçus l'ordre de les tailler et de les suspendre afin qu'ils fussent prêts à être confectionnés quand le besoin s'en ferait sentir. J'avais l'impression qu'un grand nombre de ceux pour lesquels je devais tailler des vêtements en étaient indignes. Je demandai si cette pièce était la seule que je devais couper. On me répondit que non, mais que sitôt cette pièce terminée, je devrais en tailler d'autres. Le découragement s'empara de moi en présence de la somme de travail qui m'incombait. Je déclarai que depuis plus de 20 ans que je taillais des vêtements pour les autres, mon travail n'avait pas été apprécié, et que je ne voyais pas quel bien il avait accompli. Je citai à la personne qui m'avait apporté le tissu le cas d'une femme, en particulier, pour laquelle elle m'avait prié de préparer un vêtement. Je lui dis que cette femme ne l'apprécierait pas et que ce serait une perte de temps et de tissu que de le lui préparer. C'était une indigente, d'intelligence médiocre, négligente dans sa tenue, qui aurait vite fait de souiller ce vêtement. Il me fut répondu, « Coupe les vêtements, c'est ton devoir. La perte, c'est moi qui l'a subie et non pas toi. Dieu ne voit pas comme l'homme voit. Il ordonne de faire le travail comme il désire qu'il soit fait, et tu ne sais pas, de ceci ou de cela, ce qui prospérera. » Je tendis alors mes mains calleuses par le long usage des ciseaux, et j'avouai que mon courage m'abandonnait à la pensée de continuer ce travail. La personne dit à nouveau, « Coupe des vêtements. L'heure de t'arrêter n'est pas encore venue. » Sous l'empire d'une grande lassitude, je me levai pour reprendre mon travail. Devant moi se trouvaient des ciseaux neufs, étincelants, dont je me servis immédiatement. Aussitôt mon impression de lassitude et d'accablement m'abandonna. Les ciseaux accomplissaient le travail presque sans effort de ma part et je coupais vêtement après vêtement avec une facilité remarquable. Il y a bien des rêves qui naissent des choses ordinaires de la vie, et avec lesquelles l'Esprit de Dieu n'a rien à voir. Il y a aussi de faux rêves comme il y a de fausses visions inspirées par l'esprit de Satan. Mais les rêves qui viennent de Dieu sont classés dans sa parole avec les visions, et ils sont tout autant les fruits de l'esprit de prophétie que les visions elles-mêmes. De tels rêves, en considérant les personnes qui les ont et les circonstances dans lesquelles ils sont donnés, contiennent la preuve de leur véracité. puisque les avertissements et les instructions contenues dans les témoignages personnels s'appliquaient avec la même force à bien d'autres personnes qui n'avaient pas été particulièrement désignées de cette manière, il sembla de mon devoir de publier les témoignages personnels pour le profit de l'Église. Dans le témoignage 15, parlant de la nécessité d'agir ainsi, j'ai écrit, je ne vois pas de meilleur moyen de présenter mes vues sur les dangers et les erreurs en général et sur le devoir de tous ceux qui aiment Dieu d'observer ses commandements, que de publier ces témoignages. Peut-être n'existe-t-il pas de moyen plus direct et plus puissant que de communiquer ce que le Seigneur m'a montré. Dans une vision qui me fut donnée le 12 juin 1868, ce que je vis justifia pleinement mon initiative. Quand le Seigneur choisit certaines personnes pour décrire leurs erreurs, d'autres au sujet desquelles aucune vision n'a été donnée s'imaginent, ou presque, qu'ils font bien. Si un frère est repris à cause de tel ou tel péché, les frères et sourds devraient s'examiner avec soin afin de découvrir s'ils ont pu se rendre coupables du même péché. Ils devraient être animés d'un esprit d'humble confession. Que d'autres les croient juste cela ne les justifie pas. Dieu regarde au cours. C'est ainsi qu'il éprouve et sonde les âmes. En stigmatisant les péchés de l'un, il désire en corriger beaucoup d'autres. Mais si les croyants négligent de faire leur profit de ces reproches et se flattent de ce que Dieu passe sur leurs erreurs parce qu'il ne les leur a pas directement désignés, ils séduisent leurs âmes. Plongés dans les ténèbres, abandonnés à leur propre voie, ils suivront l'imagination de leur cours. Beaucoup agissent faussement à l'égard de leur âme, et ils sont complètement dans l'erreur en ce qui concerne leur véritable état devant Dieu. Le Seigneur emploie toujours les moyens les meilleurs pour servir ses desseins, et pour mettre en évidence ce qui se trouve dans le cours des croyants qui déclarent le suivre. Il signale les erreurs de certains afin que d'autres, acceptant pour eux l'avertissement, redoutent et abandonnent ces erreurs. En s'examinant, ils peuvent découvrir qu'ils font précisément les choses que Dieu condamne chez d'autres. S'ils désirent vraiment servir Dieu, s'ils craignent de l'offenser, ils n'attendront pas que leurs péchés soient décrits avant de les confesser, et, dans un humble repentir, de retourner au Seigneur. Profitant de la lumière donnée aux autres, ils abandonneront les choses qui déplaisent à l'Éternel. Si, au contraire, ceux qui ne sont pas en règle avec Dieu se rendent compte qu'ils sont coupables de péchés reprochés à d'autres, et s'ils persévèrent cependant dans le mal parce qu'ils n'ont pas été spécialement désignés, ils exposent leur âme au danger, et ils deviennent les captifs de Satan. Il m'a été montré que dans la sagesse de Dieu les péchés et les erreurs de tous ne seraient pas révélés. C'est à tous ceux qui se rendent coupables des mêmes fautes que s'adressent ces témoignages personnels bien que leur nom n'y figure pas. Si les pécheurs cachent leurs fautes parce qu'ils n'ont pas été nommés spécialement dans les témoignages personnels, Dieu ne les bénira pas. Ils ne peuvent avancer dans la vie divine, mais ils s'enfonceront de plus en plus dans les ténèbres jusqu'à ce que la lumière du ciel leur soit complètement ravie. Dans une vision qui m'a été donnée il y a une vingtaine d'années, 1871, j'ai été amené à donner des principes généraux par la parole et par la plume et à signaler en même temps les dangers, les erreurs et les péchés de certains afin que tous puissent être avertis, repris, conseillés. J'ai vu que tous devaient sonder leur cours et leur vie afin de s'assurer qu'ils ne sont pas coupables des torts reprochés aux autres et que les avertissements qui sont donnés à d'autres ne s'appliquent pas à leur propre cas. S'il en est ainsi, ils devraient sentir que les conseils et les admonestations ont été donnés spécialement pour eux et faire de ces avis une application aussi pratique que s'ils leur avaient été adressés personnellement. Dieu désire éprouver la foi de ceux qui prétendent être les disciples du Christ. Il éprouvera la sincérité des prières de tous ceux qui déclarent vouloir sincèrement connaître la volonté divine à leur égard. Il mettra en évidence leurs devoirs, leur donnant ainsi l'occasion de manifester ce qui est dans leur cours. Le but des témoignages. Dans les temps anciens, Dieu a parlé aux hommes par la bouche des prophètes et des apôtres. À notre époque, il leur parle par les témoignages de son esprit. Jamais Dieu n'a enseigné à son peuple avec plus de sollicitude que maintenant la voie qu'il doit suivre. Dieu a jugé à propos de me faire connaître les besoins et les erreurs de son peuple. Aussi douloureux que cela m'ait été, j'ai fidèlement présenté aux coupables leurs fautes et le moyen de les surmonter. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu a donné des avertissements et prononcé des jugements sans toutefois retirer la douce promesse du pardon. Les pécheurs repentants n'ont pas lieu de désespérer si leurs transgressions leur sont rappelées, et s'ils sont avertis du danger qu'elles comportent. Ils doivent y voir au contraire une preuve de l'amour de Dieu en leur faveur et de son désir de les sauver. 11 Leur suffira de suivre ses conseils et de faire sa volonté pour hériter la vie éternelle. Dieu place les péchés de ses enfants égarés devant eux afin qu'ils les considèrent dans leur énormité et qu'ils les voient à la lumière de la vérité divine. C'est alors leur devoir d'y renoncer définitivement. Si le peuple de Dieu voulait reconnaître ses actions et accepter les enseignements divins, il trouverait un chemin droit dans lequel s'engager et une lumière pour le guider à travers les ténèbres et le découragement. Des avertissements et des reproches ont été donnés aux égarés parmi les adventistes du septième jour, non parce que leur vie mérite d'être blâmée plus que celle des chrétiens des autres églises, ni parce que leurs actes ou leurs exemples sont pires que ceux des adventistes qui ne veulent pas obéir aux exigences de la loi de Dieu, mais parce qu'ils possèdent plus de lumière et que par leur profession de foi ils ont pris position comme le peuple de Dieu, spécial, élu, ayant sa loi écrite dans leur cour. Ils prouvent leur loyauté au Dieu des cieux en obéissant implicitement aux lois de son gouvernement. Ils sont les représentants du ciel sur la terre. Tout péché en eux les sépare de Dieu et, d'une manière spéciale, déshonore son nom en donnant aux ennemis de sa sainte loi l'occasion de mépriser sa cause et son peuple qu'il nomme une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin qu'il proclame les louanges de celui qu'il a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Le Seigneur reprend et châtie le peuple qui déclare observer sa loi. Il signale ses péchés, les met à nu, parce qu'il veut le séparer de toute iniquité et de toute méchanceté, et lui permettre d'atteindre la perfection dans sa crainte. Dieu le reprend, le censure, le châtie, afin de l'affiner, de le sanctifier, de l'élever et de lui permettre finalement de monter jusqu'à son trône. J'ai relu les témoignages qui ont été donnés aux observateurs du sabbat, et je suis surprise de la miséricorde de Dieu et de ses soins à leur égard en leur donnant tant d'avertissements, en leur montrant les dangers qu'ils courent et en leur présentant la haute position qu'ils désiraient leur voir occuper. S'ils voulaient demeurer dans son amour et se séparer du monde, le Seigneur répandrait sur eux ses bénédictions spéciales, et ils irradieraient sa lumière. Leur influence pour le bien se ferait sentir dans toutes les branches de l'ouvre et dans toutes les parties du champ évangélique. Mais si au lieu de répondre au désir de Dieu, ils persistent à ne pas se rendre compte du caractère élevé de l'ouvre, leur influence et leur exemple deviendront une terrible malédiction. Ils feront du mal et rien que du mal. Le sang de certaines âmes précieuses tachera leurs vêtements. Des témoignages d'avertissement ont été maintes fois répétés. Qui y a pris garde ? Qui a manifesté du zèle pour se repentir de ses péchés et de ses actions idolâtres ? Qui a montré de l'ardeur pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ? J'ai attendu anxieusement, espérant toujours que l'Esprit de Dieu se saisirait de quelques-uns et s'en servirait comme d'instrument de justice pour réveiller son Église. Je me suis presque laissé aller au désespoir en constatant que d'année en année on s'éloignait davantage de la simplicité qui doit, selon ce que Dieu m'a montré, caractériser la vie de ses disciples. On a montré de moins en moins d'intérêt et de consécration à la cause de Dieu. En quoi, me demandai-je, ceux qui prétendent croire au témoignage se sont-ils efforcés de mettre en pratique les enseignements qu'ils renferment? En quoi ont-ils pris garde à leurs avertissements? Comment ont-ils montré qu'ils prennent à cœur les instructions reçues? Les témoignages ne remplacent pas la Bible. L'extrait suivant d'un témoignage publié en 1876 montrera que les témoignages ne sont pas destinés à remplacer la Bible. Frère R. jette la confusion dans les esprits en cherchant à montrer que la lumière que Dieu a donnée par les témoignages est une addition à la parole de Dieu. Mais il présente le sujet sous un faux jour. Dieu a jugé à propos d'agir ainsi pour attirer l'attention de son peuple sur sa parole afin de lui en donner une intelligence plus claire. La parole de Dieu est suffisante pour éclairer les esprits les plus enténébrés et elle peut être comprise par tous ceux qui en ont le désir. Malgré cela, certains qui déclarent faire de la parole de Dieu leur étude vivent en opposition directe avec ses enseignements les plus simples. Alors, afin que hommes et femmes n'aient aucune excuse, Dieu leur envoie des témoignages directs et précis, les ramenant à la parole qu'ils ont négligé de suivre. Celle-ci abonde en principes généraux destinés à former de bonnes habitudes et les témoignages généraux et personnels ont pour but d'attirer l'attention spécialement sur ces principes. Le 3 avril 1871, cette question me fut présentée dans un rêve. Il me semblait être au milieu d'une importante assemblée où une grande foule se trouvait réunie. Beaucoup de personnes priaient Dieu avec ferveur et angoisse, demandant avec insistance au Seigneur de les éclairer. Quelqu'une était profondément émue, et ce qu'elle ressentait était intense. Avec larmes, elle demandait à haute voix du secours et de la lumière. Nos frères dirigeants étaient présents. Frère S. était prostré sur le sol, apparemment dans une grande détresse. Sa femme se trouvait au milieu d'un groupe de moqueurs indifférents. Elle semblait vouloir montrer à tous qu'elle méprisait ceux qui s'humiliaient ainsi. Je revais que l'Esprit de Dieu descendait sur moi, et que je me levais au milieu des cris et des prières pour dire, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je me sens poussé à vous dire que vous devez commencer à travailler pour vous individuellement. Vous regardez à Dieu, et vous vous attendez à ce qu'il fasse le travail dont il vous a chargé. Si vous accomplissez la tâche que vous savez être la vôtre, Dieu vous aidera dans la mesure de vos besoins. Si vous aviez suivi la lumière qui vous était donnée, plus de lumière encore aurait brillé sur vous, mais quand vous négligez les conseils, les avertissements et les admonestations qui vous ont été donnés, comment pouvez-vous espérer que Dieu vous enverra plus de lumière et plus de bénédictions pour les négliger et les mépriser? Dieu n'est pas un homme. On ne se moque pas de lui. Je pris la Bible et je l'entourai de quelques témoignages pour l'Église, donnés pour le peuple de Dieu. Là, dis-je, on considérait le cas de presque tous les croyants. Les péchés qu'il faut éviter sont mis en relief. On trouvera dans cette lecture des conseils qui ont été donnés pour d'autres cas similaires. Il a plu à Dieu de vous prescrire ligne sur ligne, précepte sur précepte, mais peu d'entre vous savent vraiment ce que contiennent les témoignages. Les saintes Écritures ne vous sont pas familières. Si vous aviez fait de la parole de Dieu votre étude avec le désir d'atteindre l'idéal biblique et la perfection chrétienne, vous n'auriez pas eu besoin des témoignages. C'est parce que vous avez négligé d'étudier les Écritures que Dieu a cherché à vous atteindre par des témoignages simples et directs, attirant votre attention sur les paroles inspirées auxquelles vous n'avez pas obéi, et vous exhortant à accorder vos vies, avec ces enseignements purs et élevés. Pas destiné à apporter de nouvelles lumières. Le Seigneur désire vous avertir, vous reprendre et vous conseiller par le moyen des témoignages, et frapper vos esprits par l'importance de la vérité contenue dans sa parole. Les témoignages écrits ne sont pas destinés à apporter de nouvelles lumières, mais à graver d'une manière plus vivante dans les cours les vérités déjà révélées. Le devoir de l'homme envers Dieu, et envers ses semblables a été distinctement indiqué dans la parole de Dieu. Cependant, peu d'entre vous marchent selon la lumière reçue. Des vérités supplémentaires ne sont pas envoyées, mais à l'aide des témoignages, Dieu a simplifié les grandes vérités déjà données, et par le moyen qu'il a choisi il les a présentées afin de réveiller et de toucher les esprits de façon que personne ne cherche à donner une excuse de son ignorance. L'orgueil, l'amour du moi, l'égoïsme, la haine, l'envie et la jalousie ont obscurci votre perception spirituelle et la vérité qui vous rendrait sage à salut a perdu son pouvoir de subjuguer et de contrôler votre esprit. Les principes essentiels de la sainteté ne sont pas compris parce qu'on n'a ni faim ni soif de la connaissance biblique et de la pureté du cours. Les témoignages n'ont pas pour but d'amoindrir la parole de Dieu, mais de l'exalter, d'attirer sur elle l'attention afin que la merveilleuse simplicité de la vérité touche tous les cours. Je dis encore, De même que la parole de Dieu est entourée de ses livres et de ses brochures, de même Dieu vous a envoyé des reproches, des conseils, des avertissements et des encouragements. Et vous voici implorant Dieu dans l'angoisse de vos âmes pour qu'il vous envoie plus de lumière. Le Seigneur m'autorise à vous dire que pas un seul rayon supplémentaire ne vous sera donné par les témoignages jusqu'à ce que vous fassiez un usage pratique de la lumière que vous possédez déjà. Le Seigneur vous a entouré de lumière. Vous ne l'avez pas apprécié, vous l'avez foulé aux pieds. Tandis que certains l'ont méprisé, d'autres l'ont négligé ou bien l'ont suivi avec indifférence. Seuls, quelques-uns ont résolu de marcher dans la lumière que Dieu a pris plaisir à leur envoyer. Plusieurs, auxquels des avertissements spéciaux ont été donnés par les témoignages, ont oublié les réprimandes au bout de quelques semaines. À certains, les témoignages ont été répétés plusieurs fois, mais ils ne les ont pas considérés comme suffisamment importants pour y prêter attention. Ils ont reçu ces avis comme de vaines histoires. Si ses frères avaient accueilli avec égard la lumière qui leur était envoyée, ils se seraient épargnés des épreuves qu'ils considéraient comme dures et sévères. Qu'ils ne s'en prennent qu'à eux-mêmes. Ils se sont mis sous un joug qu'ils trouvent pesant. Ce n'est pas le joug dont le Christ les a chargés. La sollicitude et l'amour de Dieu se sont exercés en leur faveur, mais leurs âmes égoïstes, mauvaises et incrédules, n'ont pas su discerner la bonté et la miséricorde de l'Éternel. Ils suivent tête baissée leur propre sagesse jusqu'à ce que, accablés d'épreuves et de perplexités, ils tombent dans les piges de Satan. Quand vous recevrez la lumière que Dieu vous a déjà envoyée, il vous en donnera davantage. Je renvoyais ses frères à l'ancien Israël. Dieu avait donné sa loi à ce peuple, mais il ne voulut pas obéir. Il lui donna ensuite des cérémonies et des ordonnances afin qu'il se souvînt de lui en les accomplissant. Israël était si prompt à oublier le Seigneur et ses droits sur lui qu'il était nécessaire de garder les esprits en éveil pour que ce peuple se souvînt d'obéir à son Créateur et de l'honorer. Si Israël avait été obéissant et s'il avait pris plaisir à observer les commandements de Dieu, les nombreuses cérémonies et ordonnances n'auraient pas été nécessaires. Si le peuple qui de nos jours déclare être le trésor particulier de Dieu obéissait aux ordres divins tels qu'ils sont donnés dans la parole, des témoignages spéciaux ne seraient pas nécessaires pour le rendre attentif à ses devoirs et pour faire ressortir sa culpabilité et le danger auquel il s'expose. Des consciences ont été émoussées parce que la lumière a été mise de côté, négligée et méprisée. Une personne se tenait près de moi, et elle me dit, « Dieu t'a suscité et t'a donné un message pour le peuple afin de toucher les cours, comme il ne l'a fait pour aucun autre. Il a donné à tes témoignages la forme qui convenait de manière à répondre aux besoins de ceux qui sont en danger. Tu dois rester insensible aux railleries, à la dérision, aux reproches et à la critique. Pour être l'instrument spécial de Dieu, tu ne dois t'appuyer que sur Dieu seul, et comme la vigne grimpante, toutes tes vrilles devront s'enrouler autour de lui. L'Éternel fera de toi un porte-lumière. Il faut que, jour après jour, tu tires ta force de Dieu afin que ton entourage n'affaiblisse pas et n'éclipse pas la lumière qu'il fait briller sur son peuple par ton moyen. C'est le but de Satan d'empêcher que cette lumière ne parvienne au peuple de Dieu qui, au milieu des périls des derniers jours, en a un si pressant besoin. Ton succès réside dans ta simplicité. Dès que tu t'en éloigneras et que tu façonneras ton témoignage de manière à l'adapter à l'esprit de l'un ou de l'autre, ta puissance disparaîtra. Presque tout dans ce siècle est frelaté et irréel. Le monde ne manque pas de témoignages qui flattent, charme et exalte le moi. Ton témoignage à toi, revêt un caractère différent. Il doit s'abaisser aux plus petits détails de la vie, pour empêcher le faible lumignon de la foi de s'éteindre et faire comprendre aux croyants la nécessité de briller comme des lumières dans le monde. Dieu t'a donné un témoignage afin de présenter aux renégats et aux pécheurs son véritable état et la perte immense qu'il subit en persévérant dans le mal. Dieu t'a inculqué cela en te le révélant comme à nulle autre personne de notre époque et tu seras responsable de la lumière que tu as reçue. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Mauvais usage des témoignages. Quelques-uns de ceux qui croient aux témoignages ont commis l'erreur de vouloir les imposer à d'autres. Dans le volume 1, le témoignage 8 traite de cette question, il y avait des enfants de Dieu qui avaient encore des doutes au sujet des visions. D'autres ne s'y opposaient pas, mais n'osaient cependant pas prendre une attitude nette à leur égard. D'autres encore étaient sceptiques et avaient suffisamment de raisons pour l'être. Les fausses visions, les pratiques fanatiques et les faits déplorables qui en résultaient, tout cela avait eu sa répercussion sur la cause de Dieu au point d'irriter les esprits au sujet de tout ce qui portait le nom de vision. Il aurait fallu prendre en considération toutes ces choses et faire preuve de sagesse. Il ne faut pas insister auprès de ceux qui n'ont jamais vu une personne en vision, et qui ignorent l'influence des témoignages. De telles personnes ne devraient pas être privées des privilèges et des avantages de l'Église, si par ailleurs leur vie chrétienne est correcte. Il m'a été montré que certains pourraient recevoir les visions, en jugeant l'arbre à son fruit. D'autres, comme Thomas, doutent. Ils ne peuvent croire au témoignage ni s'en rapporter à l'évidence qui repose sur le témoignage d'autrui. Ils veulent des preuves palpables. On ne doit pas les repousser, mais user à leur égard de beaucoup de patience et d'amour fraternel jusqu'à ce qu'ils prennent position pour ou contre. S'ils s'élèvent contre les visions, au sujet desquelles ils sont dans l'ignorance, si leur attitude va jusqu'à se dresser contre ce qu'ils ignorent, l'Église peut avoir la certitude qu'ils ne sont pas dans la bonne voie. Certains de nos frères ont acquis une longue expérience dans la vérité, et depuis des années ils me connaissent ainsi que mon ouvre. Ils ont pu mettre à l'épreuve la véracité des témoignages, et ils ont déclaré y croire. Ils ont senti la puissante influence de l'Esprit de Dieu reposant sur eux pour témoigner de cette véracité. Il m'a été montré que si ces frères, repris par les témoignages, s'élevaient contre eux et travaillaient secrètement à affaiblir leur influence, il fallait agir à leur égard avec fermeté, car leur attitude pouvait mettre en péril ceux qui manquent d'expérience. Le premier numéro des témoignages qui a été publié contient un avertissement contre l'usage peu judicieux de la lumière ainsi donnée au peuple de Dieu. Je déclarais que certains avaient manqué de sagesse lorsqu'ils avaient parlé de leur foi à des incroyants, et que ceux-ci leur ayant demandé des preuves de ce qu'ils avançaient, ils avaient extrait ces preuves de mes écrits au lieu de s'en référer à la Bible. Il m'a été montré que cette manière de faire est inconséquente et qu'elle indispose les non-croyants à l'égard de la vérité. Les témoignages ne peuvent avoir aucun poids auprès de ceux qui ignorent l'esprit qui les a dictés. On ne doit pas s'y référer en de tels cas. De temps en temps d'autres avertissements ont été donnés au sujet de l'emploi des témoignages. Certains prédicateurs sont fort retardés. Ils déclarent croire aux témoignages et font du mal en faisant une règle de fer pour ceux qui ne les connaissent pas alors qu'eux-mêmes n'en font pas leur profit. Des témoignages leur ont été maintes fois adressés, mais ils n'en ont tenu aucun compte. Leur manière d'agir n'est pas logique. J'ai vu que beaucoup de frères avaient profité de ce que Dieu avait montré au sujet des péchés et des erreurs des autres pour pousser à l'extrême le sens de ce qui avait été révélé en vision et imposé au risque de décourager et d'abattre l'Église et d'affaiblir la foi d'un grand nombre de fidèles en ce que Dieu a montré. L'ennemi se saisira de tout ce qui peut détruire les âmes. Des témoignages ont été donnés en faveur d'individus occupant de hautes positions. Ceux-ci commencent par bien s'acquitter du travail que Dieu leur a confié. Mais Satan les poursuit de ses tentations et ils sont finalement vaincus. Et tandis que les autres considèrent leur mauvaise conduite, Satan leur suggère que les témoignages qui leur ont été adressés doivent contenir quelque erreur, sans cela ces hommes ne se seraient pas montrés indignes d'occuper une place dans l'œuvre de Dieu. Ainsi des doutes s'élevant à l'égard de la lumière que Dieu a envoyée. Ce qui peut être dit de personnes dans certaines circonstances ne peut pas l'être dans d'autres. Les hommes sont si faibles moralement, si suprêmement égoïstes, si remplis d'eux-mêmes et si facilement enflés d'orgueil que Dieu ne peut travailler avec eux. Ils sont livrés à eux-mêmes pour agir comme des aveugles avec une telle faiblesse et une telle folie que beaucoup se demandent avec étonnement comment il se fait que de tels hommes aient pu être acceptés de Dieu et reconnus dignes d'occuper une place dans son œuvre. C'est précisément ce que Satan désire. C'était son but dès le jour où il les poussa à jeter l'opprobre sur la cause de Dieu et à discréditer les témoignages. S'ils avaient occupé des places sans influence particulière sur la cause de Dieu, Satan n'aurait pas assailli ces hommes avec autant de fureur, car ils n'auraient pu atteindre par leurs moyens le but qu'ils se proposaient. Vous les jugerez à leurs fruits. Que l'on juge les témoignages d'après leurs fruits. Quel est l'esprit de leur enseignement? Quel a été le résultat de leur influence? Tous ceux qui le désirent peuvent connaître les fruits de ces visions. Pendant 17 ans, il a plu à Dieu de les laisser survivre et de les affermir malgré l'opposition des forces de Satan et l'influence des agents humains qui l'ont secondé dans son œuvre. Ou bien Dieu enseigne son Église, la reprenant pour ses fautes et affermissant sa foi, ou bien il ne le fait pas. Cette œuvre est de Dieu ou elle ne l'est pas. Dieu ne fait rien en collaboration avec Satan. Mon œuvre porte le sceau de Dieu ou le sceau de l'ennemi. Il ne peut y avoir de demi-mesure dans cette affaire. Les témoignages viennent de l'Esprit de Dieu ou du diable. Tandis que le Seigneur s'est manifesté par l'Esprit de prophétie, le passé, le présent et l'avenir ont été déroulés devant moi. Il m'a été montré des visages que je n'avais jamais vus et des années plus tard je les ai reconnus quand je me suis trouvé en leur présence. J'ai parfois été brusquement arraché au sommeil avec un sens très vif des sujets qui précédemment avaient été présentés à mon esprit. Et au milieu de la nuit j'ai écrit des lettres qui ont traversé le continent et qui, arrivant en pleine crise, ont sauvé la cause de Dieu de grands désastres. C'est en cela qu'a consisté ma tâche pendant de longues années. Une puissance m'a obligé à désapprouver et à censurer des péchés auxquels je n'avais jamais pensé. Cette œuvre des 36 dernières années est-elle d'en haut ou d'en bas? Le Christ avertit ses disciples en ces termes, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Là se trouve la pierre de touche, et tous peuvent y faire appel s'ils le désirent. Ceux qui veulent vraiment connaître la vérité trouveront des preuves suffisantes pour y croire. Le doute concernant les témoignages. Satan a conçu le plan d'ébranler la foi du peuple de Dieu dans les témoignages. Il sait comment diriger ses attaques et il agit sur les esprits pour engendrer la jalousie et le mécontentement à l'égard des dirigeants de l'œuvre. Les dons sont ensuite mis en doute, et, naturellement, ils n'ont que peu de poids. L'instruction qui a été donnée en vision est négligée. Puis, c'est le scepticisme à l'égard des points fondamentaux de notre foi, pilier de notre mouvement. C'est le doute envers les saintes écritures et la marche vers la perdition. Lorsqu'on doute des témoignages auxquels on avait d'abord cru et qu'on les abandonne, Satan sait que ceux qu'il a séduits ne s'arrêteront pas là. Il redouble d'efforts jusqu'à ce qu'il réussisse à les jeter dans une rébellion ouverte qui devient irrémédiable et finit dans la destruction. En accordant une place au doute et à l'incrédulité à l'égard de l'œuvre de Dieu, en nourrissant des sentiments de méfiance et de cruelle jalousie, ses frères se préparent eux-mêmes une complète déception. Ils s'élèvent avec d'amers sentiments contre ceux qui osent parler de leurs erreurs et réprimer leurs péchés. Un témoignage, paru en 1880 et destiné à certains jeunes gens, dit à ce sujet, « Le scepticisme ne cesse de s'accroître au sujet des témoignages de l'Esprit de Dieu. » Ces jeunes multiplient les questions et les doutes au lieu de les repousser parce qu'ils ne connaissent pas l'esprit et la puissance des témoignages. Il m'a été montré que beaucoup ont si peu de spiritualité qu'ils n'ont pas compris la valeur des témoignages ou leur objet véritable. Ils parlent avec l'aigreté des écrits donnés par Dieu pour le bien de son peuple. Ils les condamnent, émettent leur opinion et critiquent ceci ou cela, alors qu'ils feraient beaucoup mieux de se taire et de se prosterner dans la poussière. Ils ne peuvent pas apprécier l'esprit des témoignages, parce qu'ils connaissent si peu l'esprit de Dieu. Si vous perdez confiance dans les témoignages, vous vous éloignerez des vérités de la Bible. Je crains que beaucoup ne s'égarent dans le doute. Dans ma détresse pour vos âmes, je vous adresse un avertissement. Combien y prendront garde? De la façon dont vous considérez les témoignages, s'il s'en trouvait un qui ne s'accorda pas avec vos idées ou qui blâma vos erreurs, vous sentiriez-vous libre de l'accepter ou de le rejeter totalement ou partiellement? Ce que vous avez le plus de peine à accepter, c'est précisément ce dont vous avez le plus besoin. Mes frères, veillez à ce qu'aucun parmi vous n'ait un cours pervers et incrédule. La parole de Dieu est claire et formelle dans ses défenses. Elle contrecarre votre tendance égoïste, c'est pourquoi vous ne lui obéissez pas. Les témoignages de l'Esprit divin appellent votre attention sur les Écritures, étalent au grand jour les défauts de votre caractère, reprennent vos péchés, voilà pourquoi vous n'y prêtez pas attention. Pour justifier votre amour de l'aisance, votre conduite charnelle, vous commencez à vous demander si les témoignages viennent vraiment de Dieu. Si vous obéissiez à leurs enseignements, vous seriez convaincu de leur divine origine. Souvenez-vous que votre incrédulité ne les empêche nullement d'être véridiques, s'ils viennent de Dieu, ils subsisteront. Il m'a été montré que le doute en ce qui concerne les témoignages d'avertissement, d'encouragement et de blâme, prive le peuple de Dieu de lumière, lui fermant les yeux sur sa véritable condition. Certains croient que les reproches que contient le témoignage de l'Esprit de Dieu ne sont pas fondés ou qu'ils ne s'adressent pas à eux. Ceux-là ont un pressant besoin de la grâce divine et d'un discernement spirituel leur permettant de voir leur misère morale. Parmi ceux qui quittent la vérité, il en est qui, pour justifier leur attitude, déclarent qu'ils ne croient pas au témoignage. Abandonneront-ils l'idole que Dieu condamne ou persisteront-ils dans l'indulgence coupable? Rejetteront-ils la lumière reçue du ciel qui condamne les choses mêmes dans lesquelles ils se complaisent? La question qui se pose pour eux est celle-ci, suis-je prêt à renoncer à moi-même et à recevoir comme venant de Dieu les témoignages qui censurent mes péchés ou pousserai-je les témoignages parce qu'ils les réprouvent? Dans bien des cas, les témoignages sont entièrement reçus, le péché est brisé et rejeté, et une réforme commence immédiatement en harmonie avec la lumière donnée par Dieu. Dans d'autres cas, des complaisances coupables sont caressées, les témoignages rejetés et beaucoup de faux prétextes avancés à l'appui de cette attitude. Mais la véritable raison n'est pas donnée. On manque de courage moral, de volonté fortifiée et contrôlée par l'Esprit de Dieu pour renoncer aux habitudes nuisibles. Satan est maître dans l'art de faire naître des doutes, de soulever des objections au sujet du témoignage que Dieu envoie et beaucoup pensent que c'est une vertu, une preuve d'intelligence de ne pas y croire, de poser des questions et d'ergoter. Ceux qui désirent se livrer au doute auront pour cela de multiples occasions. Dieu ne se propose pas d'enlever tout ce qui pourrait donner lieu au scepticisme. Il donne l'évidence qui doit être examinée soigneusement avec humilité, et un esprit disposé à se laisser enseigner. Le poids de l'évidence devra alors être décisif. Dieu donne des preuves suffisantes à celui qui veut croire avec candeur. Mais quiconque se détourne de l'évidence parce qu'il y a quelques points que son intelligence bornée ne peut saisir, sera laissé dans l'atmosphère glaciale de l'incrédulité où sa foi fera naufrage. La négligence des témoignages. Ceux qui rejettent ouvertement les témoignages, ou qui cultivent le doute à leur égard, ne sont pas seuls dans une position dangereuse. Négliger la lumière, c'est la repousser. Quelques-uns d'entre vous reconnaissent que les reproches sont fondés mais vos cours refusent de s'y soumettre. Vous marchez comme auparavant, avec cette différence que vous êtes moins susceptible d'être influencé par l'Esprit de Dieu, que vous devenez de plus en plus aveugle, que votre sagesse, votre empire sur vous-même, votre force morale, votre zèle, votre amour pour les exercices de piété diminue. À moins que vous ne vous convertissiez, vous finirez par abandonner Dieu complètement. Vous n'avez pas résolument changé de vie quand la répréhension s'est présentée à vous, parce que vous n'avez pas vu les défauts de votre caractère, et le contraste frappant entre votre vie et celle du Christ. À quoi servent vos prières tant que vous conservez l'iniquité dans vos cours? À moins d'un changement radical, vous vous lasserez avant longtemps des réprimandes, tout comme les enfants d'Israël, et, comme eux, vous apostasirez. Beaucoup agissent contrairement aux instructions que Dieu a données à son peuple, parce qu'ils ne lisent pas les livres qui contiennent la lumière et la connaissance dans des avertissements et des censures. Les soucis de la vie, l'amour de la mode, le manque de piété ont détourné leur attention des vérités que Dieu leur a si aimablement communiquées, tandis que des livres et des périodiques renfermant l'erreur circulent à travers tout le pays. Le scepticisme et l'incrédulité augmentent partout. La précieuse lumière, venant du trône de Dieu, est cachée sous un boisseau. Dieu tiendra son peuple responsable de cette négligence. Nous devrons rendre compte de chaque rayon lumineux qui a brillé sur notre route, soit qu'il ait contribué à notre avancement dans le domaine spirituel, soit que nous l'ayons rejeté parce que nous préférions aller au gré de nos caprices. Les ouvrages de l'esprit de prophétie et les témoignages devraient se trouver dans chaque famille d'observateurs du sabbat. Nos frères devraient être instruits de leurs valeurs et être encouragés à les lire. Cela n'a pas été une mesure sage que de les livrer à un prix dérisoire et de n'en placer qu'un seul exemplaire par église. Chaque famille devrait les avoir sur les rayons de sa bibliothèque afin de pouvoir les lire et les relire sans cesse. Qu'ils soient donc placés là où ils peuvent être lus par le plus grand nombre de personnes. Que nos prédicateurs et nos membres d'église se rappellent que la vérité évangélique endurcit ce qu'elle ne sauve pas. Rejeter la lumière conduit à l'esclavage, aux ténèbres et aux doutes. L'âme qui se refuse à écouter les invitations de la miséricorde entendra bientôt des appels plus pressants sans qu'elle s'en émeuve. Notre titre d'ouvrier avec Dieu exige de nous une piété plus vivante, une moins haute opinion de nous-mêmes. Plus le moi sera exalté, plus notre foi au témoignage sera rabaissée. Ceux qui ont une entière confiance en eux-mêmes verront de moins en moins le Seigneur dans les témoignages de son esprit. Comment recevoir la répréhension? Ceux qui sont repris par l'Esprit de Dieu ne devraient pas s'élever contre l'humble instrument de son choix. C'est Dieu, et non un mortel sujet à l'erreur, qui leur a parlé pour les sauver de la perdition. La nature humaine n'aime pas recevoir des reproches, et il est impossible qu'un cours qui n'a pas été éclairé par l'Esprit de Dieu puisse comprendre la nécessité de la répréhension, et la bénédiction qu'elle apporte avec elle. Quand un homme cédait à la tentation et se complaît dans le péché, son esprit s'enténébrait, son sens moral se pervertit, il ne prêtait plus attention aux avertissements de sa conscience dont il distingue de moins en moins la voix. Petit à petit, il perd la faculté de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, à tel point qu'il ne voit plus sa position véritable devant Dieu. Il peut respecter les formes extérieures de la religion, défendre avec zèle ses doctrines sans en avoir l'esprit. Sa condition est celle qui est décrite par le témoin véritable, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Quand l'Esprit du Seigneur lui déclare par un message de blâme que c'est là sa condition, il ne peut croire à la vérité de ce message. Doit-il donc rejeter l'avertissement? Non. Dieu a donné une évidence suffisante pour convaincre du caractère des témoignages tous ceux qui le désirent, et après avoir reconnu qu'ils viennent de Dieu, les croyants devront accepter la répréhension même s'ils ne se voient pas nettement coupables. S'ils se rendaient pleinement compte de leurs conditions, pourquoi auraient-ils besoin de reproches? C'est parce qu'ils ne s'aperçoivent pas de leur état véritable que Dieu les avertit dans sa miséricorde afin qu'ils puissent se repentir et se réformer avant qu'il ne soit trop tard. Ceux qui méprisent l'avertissement seront laissés dans les ténèbres, s'étant séduits eux-mêmes. Mais ceux qui y prennent garde, se mettant à l'ouvre avec ardeur pour se débarrasser de leurs péchés et pour recevoir les grâces nécessaires, ouvriront la porte de leur cour à leur Sauveur bien-aimé afin qu'il entre chez eux et qu'il y demeure. Ceux qui sont le plus étroitement unis à Dieu sont ceux qui reconnaissent sa voix quand il leur parle. Quiconque est spirituel discernera les choses de l'esprit et sera reconnaissant au Seigneur de lui avoir signalé ses erreurs. David apprit la sagesse en considérant les voies de l'Éternel, et il accepta avec humilité le châtiment du Très-Haut. Le portrait fidèle que le prophète Nathan lui brossa de sa condition, révéla à David ses péchés et l'aida à s'en débarrasser. Il accepta humblement le conseil divin et s'humilia devant Dieu. « La loi de l'Éternel est parfaite, s'écrit-il, elle restaure l'âme. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. Notre Seigneur a dit, « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. » Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Quelque rigoureuse que soit la discipline, elle vient d'un Père rempli d'amour, afin que nous participions à sa sainteté.